Et demander aux personnes qu'il pourrait choquer de ne pas prendre l'écoute pour éviter toute surprise et tout reproche ultérieur.
Thérèse d'Avila, 1515-1582.
Entrant un jour dans l'oratoire, je vois une statue que l'on s'était procurée pour une fête qui devait se célébrer dans le couvent. Elle représentait le Christ tout couvert de plaies. La dévotion qu'elle inspirait fut si grande qu'en la voyant, je me sentis complètement bouleversée, tant elle rappelait ce que le Seigneur avait enduré pour nous.
En 1554, Thérèse, moniale, tourmentée et bouleversée par la vue du Christ à la colonne, cet homme qui entame le martyre de sa passion. Elle va dorénavant être ravie de s'identifier à ses souffrances, ravie au sens où elle va s'abîmer tout entière en lui. Commence un long entretien dont témoigne le livre de la vie, le chemin de la perfection, le château intérieur. Elle y est l'épouse qui tente de dire au plus près de son expérience comment s'exprime l'amour. C'est comme un nuage qui emporterait vers le haut les vapeurs de la terre. C'est comme un feu qui brûlerait davantage au contact de l'eau. Le livre des fondations, lui, raconte la vie que mène Thérèse courant les routes d'Espagne dans son chariot de toile et de jonc, telle une gitane, et fondant chaque année un nouveau Carmel, avec l'aide bientôt de Jean de la Croix, d'un quart de siècle son cadet, mais qu'elle nomme le père de son âme. Thérèse demeure d'une immense utilité pour le catholicisme, qui l'a fait sainte et docteur de l'Église. Elle est aussi, par-delà les siècles, une femme qui parle à d'autres femmes et un auteur qui écrit entre le sens et le sensible sur le seul chemin de crête qui vaille.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Julia Kristeva, bonjour.
Bonjour.
Non pas docteur de l'Église universelle, mais docteur honoris causa de on ne sait combien d'universités. Votre époux Philippe Solers a renoncé à les compter. Mais il y a de ça un peu plus de 10 ans, commence pour vous un très long entretien qui vous occupe encore avec Thérèse d'Avila. L'année dernière, une pièce jouée par Isabelle Huppert. Cette année, la préface d'une anthologie pour l'anniversaire de Thérèse d'Avila. Et surtout, un gros récit en 2008, traduit dans plein de langues, commenté dans l'Osservatore Romano, où vous essayez de faire comprendre Thérèse par la fiction.
Oui, parce qu'elle a écrit ces ravissements dont vous venez de parler dans une langue castillane magnifique qui est une langue de fiction. Une autobiographie, mais une autobiographie, comme elle disait, je donne cette fiction pour donner à comprendre, qui est très examinative, très intelligente, très questionnante. C'est une femme unique dans l'histoire de l'Église. Parmi les mystiques, c'est celle qui est à la fois amoureuse de Dieu. Dieu la pénètre, mais elle s'anéantit en lui. Et en même temps, contrairement aux autres qui sont dans un état de dépression et de misère qu'elle déplore de toutes leurs larmes, elle est dans un état d'extase, de ravissement, comme vous avez dit, qui est une jouissance magnifique. Et c'est ainsi que Lacan l'a fait connaître à la génération dont je fais partie, parce que son livre sur la jouissance féminine s'appelle Encore, et on voit sur la couverture la fameuse sculpture du sculpteur baroque Bernini, où Thérèse se fait pénétrer, si j'ose dire, mais elle le dit, par le long dard d'un ange qui enlève ses entrailles jusqu'au ciel.
1515, c'est la naissance à Avila. Où vous êtes allé, où vous retournez pour un congrès carmélitain cet automne, et qui est une ville extraordinaire parce qu'elle est restée à peu près comme au XVIe siècle, ces remparts surgissant du plateau de la Meseta.
C'est un endroit magnifique, comme une sorte d'île déserte, une oasis déserte aussi, à cause de cette présence de la pierre de seuls oiseaux spirituels qu'on voit dans le ciel, qui sont des grandes cigognes avec leur lit, où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et on comprend que Thérèse a pu être assoiffée. Elle dit « l'eau est mon élément ». et c'est la métaphore de son lien avec Dieu qui va à la fois arroser les pierres d'Avila et son désert d'âme pour faire pousser les fleurs de l'extase.
Elle vit dans une grande maison pliée sur elle-même, dans une famille très nombreuse, menacée d'appauvrissement, même si elle est encore aisée, et on est dans l'Espagne, d'après la Reconquista, partie vers de nouvelles aventures en Amérique. Deux de ses frères mourront parmi les conquistadors.
Je m'appelle Rafael, Rafael Ruiz. Je suis soldat d'Espagne. La plus grande partie de ma vie, je l'ai passée à combattre pour mon pays, l'or et la croix. Je suis riche à millions, je vais bientôt mourir, et l'on m'enterrera ici, dans ce Pérou lointain, que tout jeune homme, j'ai contribué à ruiner. Cette histoire, d'ailleurs, n'est faite que de ruines. De ruines et d'or. Plus d'or que vous n'en verrez jamais, même si vous travaillez dans une banque. Je vais vous raconter comment 167 hommes ont conquis un empire. Comment 167 hommes l'ont emporté sur 24 millions. Et d'autres choses encore que personne n'a jamais dites. Des choses qui vous feront sourire. Vous vous écriez que je mens. C'est possible, après tout. L'air du Pérou est froid et aigrelet comme celui d'une cave. Et les esprits ici se brouillent plus facilement qu'en Europe.
Ça va être un jeu, si vous le voulez bien, Julia Kristeva. On va entendre pratiquement dans cette émission que de très grandes voix de théâtre, un peu inattendues. Là, c'était Jean Mercure. Son frère Rodrigo, qui va mourir au Pérou, elle l'aimait beaucoup. Et elle avait tenté avec lui une aventure difficilement compréhensible pour les esprits rationnels du XXIe siècle. À 15 ans, là, elle part, elle veut franchir la mer, et elle veut se faire tuer comme martyr par les morts.
Oui, nous sommes dans une période que tout le monde connaît, la France des conquistadors, le siècle d'or. Mais il faut dire que c'est déjà un moment où cette gloire espagnole commence à décliner. Et non seulement les difficultés des conquêtes apparaissent, mais il y a aussi la poussée de l'islam et également la poussée des sectes religieuses, parmi lesquelles les Alumbrados, et d'un certain humanisme qui va secouer les assises et les fondations du catholicisme. Et dans ce contexte, qui commence à être un contexte de crise, elle est une jeune fille croyante qui a la foi chevillée au corps par un père croyant, une mère croyante aussi, nous y reviendrons. La mère est aussi une grande lectrice de romans courtois. Les troubadours sont dans l'air de la cuisine où on lit tout ça. Et elle essaye de défendre ce monde qui s'écroule et pour lequel on ira se battre aux antipodes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle entraîne son frère pour qu'on aille se faire couper les têtes chez les morts.
Mais le fil des traditions religieuses est si coupé aujourd'hui qu'on ne comprend plus ces grands soulèvements d'âmes.
Écoutez, moi je suis de ceux qui acquiescent à la phrase de Tocqueville et de Hannah Arendt, à savoir que nous, l'Europe, nous sommes le seul lieu au monde où on a coupé le fil de la tradition parce que on a ciblé ce que la religion a de liberticide. Et je crois qu'il y a encore beaucoup à faire dans cette dimension. Mais je suis aussi un des rares à dire qu'il faudrait retourner avant ce fil coupé, avant la coupure du fil, et essayer de voir, d'entendre, d'examiner qu'est-ce qu'il y a dans ce fil qui enchantait les âmes et qui permettait aux gens de se dépasser. Et
1535,
Thérèse est un grand exemple pour ça.
Elle prend l'habit. Mais cette prise d'habit dans un monastère mitigé, assez mondain, l'incarnation d'Avila, c'est pas une issue. Pendant près de 20 ans, ça vous a passionné, elle navigue sur une mer orageuse, tombant, se relevant, et son corps est un champ de bataille.
Oui, c'est un corps qui est un champ de bataille parce qu'il est divisé entre deux injonctions, comme on dirait aujourd'hui. D'une part, il y a la pureté, l'élévation. Elle célèbre Marie et Joseph. Et de l'autre, son corps est habité par des désirs de la jeune femme, d'autant plus que dans ce couvent déchaussé, il est mitigé, comme vous disiez. On pouvait avoir des chaussées, pardon, c'était le couvent des chaussées, c'est-à-dire qu'ils pouvaient...
Elle va les déchausser,
elle va les déchausser, mais ils sont chaussés pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir. Et il peut y avoir aussi des visiteurs qui laissent des billets doux, qui font des rencontres. Et donc, elle fait de vagues allusions à cela quand elle commence à écrire. Mais on peut déduire du peu qu'elle dit qu'elle était tiraillée entre ces deux feux du désir et de la pureté. Et probablement pour des raisons de fragilité neuronale ou psychologique, elle se trouve être en proie de crises qu'on diagnostique aujourd'hui comme épileptiques. On les diagnostique en lisant comment elle est décrite. Le français Berceletto et García Albea, neurologue espagnol, appelle cela une épilepsie temporale, dont elle a failli mourir.
Le couvent de l'incarnation est immense, c'est une de ses faiblesses. Elle imagine une flottille de vaisseaux beaucoup plus modestes, avec 13 religieuses. On déchausse, ça veut dire qu'on vit pieds nus dans des santales, on a les cheveux coupés, c'est ça la réforme dans ses aspects.
Qu'elle va elle-même
visuelle, faire. Qu'elle va faire. Il ne faut pas quand même imaginer, ça vous intéresse beaucoup, mes amis, mes sœurs, que je vais vous demander de pratiquer une foule de choses et que je vais vous demander de faire triste figure. Elle n'aime pas les tristes figures.
Non, elle n'aime pas les tristes figures. Elle dit souvent, ça sent trop la femme ici, soyez hommes, mes filles. Et elle n'était pas pour les mélancoliques. On n'est pas là pour se lamenter et pour pleurer. Même si, évidemment, la pureté et la cèse est exigée. Mais elle était, même par rapport à Jean de la Croix, assez sévère quant à sa sévérité à lui. Elle savoure la joie de la foi. Elle savoure l'état amoureux et la rencontre avec Jésus, cet autre qu'elle voit en sang et portant la couronne dans sa souffrance. Le simple fait qu'elle est aimée par cet homme et qu'elle l'aime dans une sorte d'espace très particulier, parce que lui est en elle, elle est en lui, ils s'auto-pénètrent réciproquement. Donc cette vision de fusion avec l'altérité charnelle et spirituelle de l'autre la remplit de la plus grande joie.
La vision, voilà déjà un thème important qui affleure et qu'on ne va cesser de retrouver. La vision telle que la pratique Thérèse d'Avila ajoute au scandale dans son Carmel d'origine. J'ai promis un festival d'acteurs et d'actrices. Voici la prieure furieuse de l'incarnation. C'est Alice Sapritch elle-même dans une adaptation de Marcel Auclair qui a fait beaucoup pour faire connaître en France Thérèse d'Avila.
Avant d'ouvrir ce chapitre, il est de mon devoir de vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, le 21 mai et le 8 octobre 1559, année où vos visions et vos nouveautés ont donné leur plein d'artifice, deux autodafés exemplaires ont eu lieu à Valladolid. 30 hérétiques pour le premier, 80 pour le second, vêtus de la jaune tunique d'ignominie, le sang benicto, coiffés de mitres en papier peintes de démons et de flammes, cierges verts au poing, ont défilé en procession vers les brûloirs ou les prisons. Un nom, une autre nommée, rien n'arrête le bras du Saint-Office. Le docteur Augustin Casala, prédicateur de Charles Quint, au bûcher. Don Cristobal di Ocampo, chevalier de Saint-Jean, au bûcher. Doña Mancia de Figuerca, dame d'honneur de la reine, condamnée.
Il faut lui prendre garde, il faut qu'elle prenne garde, Thérèse d'Avila, dans cette Espagne, prête à allumer les brûloirs, comme dit Alice Sapritch. Elle est surveillée de près.
Elle est surveillée de près, d'autant plus que sa famille paternelle, par le grand-père d'abord et ensuite le père et le frère, ont été poursuivi par les tribunaux pour être juif et non pas converti et vrai catholique. Donc il y a toute une
Thérèse
bataille.
Thérèse d'Avila était d'origine juive, mais l'Espagne franquiste ne s'en est rendu compte, et encore. La chose était longtemps dissimulée.
La chose est très longtemps dissimulée. Vous avez raison, Franco se promenait avec un bras, une relique de Thérèse. Et c'est souvent difficile, j'ai constaté moi-même, de parler de Thérèse auprès des intellectuels qui ont vu cette image grotesque. Mais à l'époque, il y avait une tendance de l'Église qu'on appelait l'impiezza di sangre, c'est-à-dire la pureté du sang. Et on interdisait l'entrée dans les fonctions, on va dire, publiques aujourd'hui, des personnes qui sont de sang juif, par exemple, ou musulman, mais juif surtout. Et donc, elle était, son dossier était présenté à l'Inquisition. Ça, on ne lui dit pas assez. C'est vrai que, ce qu'on nous a dit tout à l'heure, beaucoup de mystiques ou des femmes qui professaient une foi très intense étaient conduites à l'Inquisition, mais Thérèse n'a pas été épargnée non plus. Finalement, elle était défendue par quelques dominicains et jésuites, mais la tendance était plutôt contre elle.
Elle ne parlait pas explicitement, évidemment, de ses origines qu'elle connaissait. Voici une copla, musique traditionnelle en ancien espagnol, mais d'origine juive. C'est une copla de Pourim, la fête où on se souvient que l'empereur perse avait jeté son dévolu sur la belle Esther, mais que Esther avait révélé, elle, ses origines juives.
Esta noche de Purim no duermen los ajuin, haciendo ajuinadas para las desposadas. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Los puso a su cabecera un día antes de Purim. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Calla tú, seres la loca, que a ti hablar no te toca, que por ti hicieron la horca y me la estrené en Purim. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Aprobes nuestros hermanos, a turcos y a cristianos, aunque no nos pueden ver. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
500e anniversaire de la naissance de Thérèse d'Avila, l'occasion de découvrir chez Fayard une anthologie de textes de Thérèse, préparée par Aline Schulman est préfacé par Julia Kristeva, qui est ici l'invitée de la marche de l'histoire et dont on se souvient qu'elle avait publié en 2008 un gros récit. Thérèse, mon amour, vous vous êtes affrontée à l'écriture, je parlais de l'ancien espagnol de Thérèse, qui est une écriture incarnée au plus près de son expérience. Elle écrit le soir à la lueur d'une chandelle, elle est fatiguée, elle écrit vite.
Oui, on m'a proposé de faire un petit livre sur un des grands mystiques de l'Occident. Et c'est devenu une grande mystique et un gros livre. Parce que ne connaissant pas grand-chose de Thérèse, sauf les petits textes de Lacan dont on a parlé, la jouissance féminine, je me suis consacrée à Thérèse pendant 10 ans. J'en ai fait ma colocataire, comme je le dis souvent. J'ai habité avec elle, en lisant tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'on a écrit sur elle. Car à part Marcel Leclerc, il y a beaucoup de femmes jeunes aujourd'hui qui écrivent, comme Dominique de Courcelles, des Américaines dans les Divinity Schools, des Italiennes, etc. C'est vraiment quelqu'un que le monde moderne essaye de s'approprier dans la marge, mais quand même. Et j'étais frappée par le rôle éminent et décisif qu'a joué l'écriture. Quand elle a ses expériences, ses ravissements, quand elle est menacée par l'Inquisition et la Limpieza di Sangre, quand les supérieurs l'attendent, comme on a entendu maintenant, ne serait-ce qu'en fiction, eh bien, elle en parle à ses confessions, qui sont sidérées, ils ne savent pas que faire. Certains sont séduits, elles trouvent finalement qu'il vaut mieux avoir des diables que des confesseurs, elles se sentent menacées par ces messieurs, mais certains lui disent, mais écrivez-nous ce que vous avez vécu. Et elle se rire sa vie d'abord, et elle n'arrête pas. Et c'est ainsi qu'elle découvre le rôle, je dirais, salvateur de la foi. Parce que quand elle parle de ses ravissements, elle va décrire toutes les sensations, le regard, l'ouïe, le goût, le toucher, et le goût de Dieu, qui est une phrase que les jésuites vont employer beaucoup, le goût de Dieu étant une sortie tout droit du Cantique des Cantiques, où il est décrit comme une pomme cuite, comme un parfum. Elle s'approprie ces métaphores, elle dit même qu'elle est à la mamelle de Dieu, elle boit son lait, elle le voit comme ayant une bisexualité corporelle, en tout cas un sein et du lait, et elle ajoute « Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de prononcer. » C'est donc le verbe, le langage, plus que de prononcer, d'écrire. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ces extases, nous les avons parce qu'elle a pu les écrire, et que c'est l'écriture qui est son extase suprême.
Oui, mais celui ou celle qui n'a pas connu le ravissement le prend souvent pour une folie.
Nous ne sommes pas dignes d'être folles.
En tout cas, elle l'est, et l'on sait de qui.
Je voyais donc alors que le Christ me parlait. J'admirais son incomparable beauté et les paroles suaves, quelquefois sévères, qui tombaient de ses lèvres si ravissantes et si divines. J'avais le plus vif désir de connaître la couleur de ses yeux et sa taille elle-même, afin de pouvoir en parler. Mais je n'ai jamais mérité cette faveur. Tous mes efforts ont été inutiles, car la vision s'évanouissait alors entièrement. Le Seigneur veut nous montrer très clairement que cette faveur n'est point notre œuvre, mais la sienne. Souvent, il me semble, mon corps devenait si léger qu'il perdait toute sa pesanteur. Parfois même, c'était à tel point que je ne sentais plus, pour ainsi dire, mes pieds toucher le sol.
À deux pieds de terre, un jour qu'elle s'élevait dans les airs, je l'ai retenue par ses jupons.
Le jour du Seigneur avait consacré au château intérieur une émission en 1982. Ravissement, extase, vision. Alors c'est quoi ? C'est la perception par tous les sens d'une présence enveloppante, aimante ?
Elle dit même que c'est une folie. Et c'est assez rare, je crois, dans l'histoire de la mystique. Et elle ne s'épargne pas ce mot aussi quand elle parle de ses relations avec des vivants, comme Jean de la Croix, ou encore plus avec son autre amant spirituel ou charnel, on ne sait pas, Jérônimo Gracian.
Donc Jean de la Croix, il a 25 ans, 27 ans de moins qu'elle.
Et Jérônimo Gracian est encore plus jeune.
Il va l'aider à développer les monastères de
Déchaussée. Tous les deux vont l'aider. Ce sont des acolytes, en quelque sorte, des compagnons de route. Mais avec, il y a une correspondance torride avec Jérônimo Gracian, tandis que celle avec Jean de la Croix est détruite, mais on sait qu'elle est beaucoup plus spirituelle. Elle est elle-même saisie du fait que ses visions ont quelque chose d'extraordinaire, d'extra-normal. Elle dit même une fois. Alors, comment peut-on concevoir, comprendre aujourd'hui ces visions ? Un psychanalyste qu'on connaît beaucoup maintenant, Winnicott, nous parle de ces états qu'on trouve sur le divan chez certaines personnes qui sont capables de régression. Il faut parler de ce mot non pas comme pathologique, mais comme susceptible d'arriver à tout le monde, notamment dans des expériences esthétiques, qui vivent ces personnes au niveau de leur sens, qui perçoivent le monde à travers le regard, mais c'est le dernier finalement, avec le goût, avec l'ouïe, avec le tact, la peau, avec toutes les zones érogènes, si on veut, comme un bébé qui est dans le sein de sa mère et qui ne coupe pas pour autant le contact avec le monde, et qui sont capables de ressortir de cet état-là d'une très très intime intimité pour donner la couleur, si vous êtes peintre, la musique ou les mots. Et Thérèse est dans cette économie-là. Elle est
Philippe Solers, je ne peux vous interrompre qu'en citant Philippe Solers, et vous êtes d'un athéisme freudien souriant et inflexible.
Ah, tout à fait. Je pense que son athéisme à Thérèse n'est pas du tout quelque chose qui nous est suggéré, mais elle est d'une immanentéisme, c'est-à-dire le transcendant en nous. Et c'est dans son livre qui s'appelle en français Le Château intérieur qu'on voit ça le mieux.
Immanence et transcendance. Bah, voilà quand même un fait de transcendance. La transfixion, on pénètre pour ôter, ça c'est le vocabulaire de la chirurgie. La transverbération, une blessure physique provoquée par une cause immatérielle. Allez, j'avais promis de grands acteurs. Voici Jean Villard maintenant. Saint-Pierre d'Alcantara, un autre protecteur de Sainte-Thérèse. Je ne sais pas si la scène n'a pas été imaginée par Monseigneur Ducos Bourget, l'homme qui finira à Saint-Nicolas du Chardonnay dans cette adaptation radio avec Jacqueline Morane en 49.
Vous avez reçu une précieuse faveur, ma sœur. Dieu certainement vous aime. Et vous devez faire grande attention à ne pas décevoir cet amour.
Ne pourrais-je faire quoi que ce soit en dehors de lui? Il m'est arrivé, étant en prière, de voir près de moi un ange admirablement beau, tel un enfant ravissant, qui plongeait en mon cœur une flèche brûlante. Je pensais en mourir. Depuis lors, mon âme n'est plus qu'un brasier d'amour. Je voudrais toujours vivre pour toujours aimer. Et je meurs de ne pas mourir, puisque la mort enfin me donnera la vie qui ne finira jamais.
Créature chérie du Maître, persévérez dans votre voie d'humilité, de courage et d'amour. Vous serez la réformatrice de l'ordre du prophète Élie. Vous restaurerez cette religion vouée à la divine mère de Dieu. Et vous rayonnerez à travers l'univers entier l'œuvre du Christ dans votre âme, dans celle de vos filles que je vois à travers les siècles, innombrables comme les étoiles du ciel et le sable des eaux. Gloire à Dieu! Son amour sera connu de plus en plus et se répandra dans les cœurs à cause de vos sacrifices et de vos larmes.
Villard, 10 ans du Ducos bourgeois, c'est quand même une curiosité, mais c'est une réalité. Elle a fondé 17 Carmels, elle courait les routes. C'est intéressant aussi ce personnage de gitane qui, contre les éléments, dans la chaleur, célébrant la messe dans son chariot, va créer des monastères.
Le mot de gitane n'est pas le seul qu'elle emploie. Elle est toujours très humble, mais c'est quelqu'un qui n'évite pas de rencontrer le roi, la sœur du roi, l'aristocratie, les évêques, d'imaginer même défier le pape. C'est pas du tout une gitane au sens moderne du terme, et très peu au sens du passé. C'est d'une grande outrance et d'un grand courage qu'elle réalise à la fois ses visions et ses œuvres. Je ne veux pas surtout qu'on retienne qu'elle ait pu aller du côté de l'athéisme, loin de là. Mais elle voit le divin transcendant, elle veut s'exiler vers lui, la plus grande altérité, et cela nous manque aujourd'hui, l'idée que l'altérité est un objet de convoitise et de désir, parce que nous sommes enfermés dans nos narcissismes, et en même temps, il la pénètre, et elle le retrouve au fond d'elle-même, d'où ce que j'appelais l'immanentéisation. Il est au fond d'elle, et on lui dit, mais comment il est au fond de vous? Déjà, avant la mort, on va vous mettre à l'inquisition. Et ça conduit à quoi? À obras, des œuvres. 17 monastères en 10 ans. Une grande créatrice, réformatrice de la politique de l'Église.
À la fin, vous l'imaginez, dans Thérèse, mon amour, ça a donné lieu à une pièce qui a été représentée à l'Odéon avec Isabelle Huppert, entourée de ces religieuses et essayant, dans les derniers moments, des associations libres d'agonisantes.
Oui, elle parle à Geronimo Graciane, à Saint-Jean de la Croix et à ses sœurs, où elle redit cette phrase qui n'est pas retenue dans les œuvres complètes mais qui se trouve dans les notes. « Mes sœurs, vous pouvez jouer dans les monastères pour faire échec et mat à Dieu ». C'est inouï, c'était une grande joueuse d'échecs aussi.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, elle se reprend tout de suite et il dit, mais ça veut dire, pas du tout un blasphème, il y a quelqu'un qui a déjà réussi ça, c'est notre mère, la Vierge Marie, parce qu'elle lui a pris un enfant. Ça veut dire l'incarnation, ça veut dire le divin est en nous. Et je joue avec Dieu, je ne dis pas non, je ne dis pas oui, je joue et c'est la plus grande positivité qui est permise à un humain.
Bon, elle a été en même temps d'une grande utilité au catholicisme.
Le catholicisme a une grande habileté, encore aujourd'hui on le voit avec le pape. Elle a aussi dépassé, je pense, les institutions. Elle s'adresse par-delà le catholicisme à ceux d'aujourd'hui qui essayent de comprendre la tradition et de rendre plus vivace aussi la sécularisation.
C'est bien de retrouver une sainte de l'époque baroque.
Sans le baroque, il n'y a pas les Lumières. Et je suis de ceux qui trouvent que le fil est très droit de l'un à l'autre. Il faudrait le démontrer en lisant.
Merci à vous, Julia Kristeva. Votre Thérèse, mon amour, c'est aux éditions Fayard. L'anthologie qui a été préparée par Aline Schulman, que vous préfacez, c'est chez Fayard aussi. Beaucoup de publications cette année en France, dont on trouvera une sélection sur notre site. C'est Elisabeth Jacquineau qui avait préparé cette émission. À la technique, Philippe Duclos. La réalisation, Jacques Sigal.
Merci Jean Lebrun. Demain, nouvelle diffusion de La Marche de l'Histoire. Et cette semaine, c'est sur le christianisme. Demain, ce sera Témoin, Antoinette Molinier et La Passion selon Séville. Une rediffusion du vendredi 25 mars 2016.